Il était là parce qu'il était américain. Parce qu'elle considérait qu'il fallait qu'il voie où ces jeunes gens avec la peur au ventre venaient profiter de leur permission, angoissés à l'idée des tortures qu'ils allaient subir s'ils étaient capturés par les Nord-Vietnamiens. Dorothy lui rappelait ces journalistes qui souhaitaient que Juan Diego, en tant qu'écrivain, assume davantage son statut de mexicano-américain. Il était certes d'origine mexicaine, mais était-ce une raison pour se projeter comme tel dans son œuvre? Ou pour justifier le fait d'être mexicano-américain? Ses critiques ne lui suggéraient-ils pas constamment les sujets qu'il devait traiter? Ne deviens pas comme ces Mexicains qui détestent le Mexique, ni comme ces Mexicains qui reviennent sans cesse au pays, faute de savoir couper le cordon, avait dit frère Pépé en prenant Juan Diego dans ses bras. Et puis quoi encore? S'était exclamé Flore en jetant à Pépé un regard méprisant. Vous en avez beaucoup comme ça? La liste est longue? Flore n'avait jamais compris l'aspect littéraire de la question. Pourquoi le public aurait-il des attentes sur ce qu'un écrivain mexicano-américain devait ou ne devait pas écrire? Au nom de quoi lui aurait-il été interdit de ne pas parler de son vécu de Chicano? Accepter d'être catalogué mexicano-américain, pensait Juan Diego, engage du même coup à fournir la prestation attendue. Et d'ailleurs, comparé à ce qui lui était arrivé au Mexique, comparé à son enfance et à son adolescence à Oaxaca, rien de ce qu'il avait vécu depuis son installation aux États-Unis n'offrait matière à un roman. Oui, il était en compagnie de sa jeune maîtresse sexy, mais les opinions politiques de celle-ci, ou plutôt celles qu'elle lui prêtait, la poussaient à lui expliquer l'importance de l'endroit où il se trouvait. Elle ne comprenait pas. Juan Diego n'avait aucunement besoin de se rendre au nord-ouest de Luçon, ni même de voir les lieux, pour se représenter ces jeunes de 19 ans avec la peur au ventre. Peut-être était-ce le faisceau des phares d'une voiture qui les croisait, mais un trait de lumière éclaira les yeux sombres de Dorothy. Pendant une seconde ou deux, ils prirent une teinte ambrée, celle des yeux de fauve. Et aussitôt Juan Diego fut happé par son passé. C'était comme s'il n'avait jamais quitté Oaxaca. Dans les ténèbres et l'haleine des chiens qui baignaient la tente, aucun autre avenir ne l'attendait à la Malavia que celui d'interprète de sa sœur. Juan Diego n'avait pas assez de cran pour devenir marcheur céleste. Le cirque de la merveille n'avait rien à faire d'un marcheur au plafond. À 14 ans, en pleine déprime, se cramponner à l'idée d'un avenir de rechange est comme essayer de voir dans l'obscurité. Dans la vie, avait dit Dolores, il y a toujours un moment où l'on doit décider où est sa place. Dans l'attente des chiens, l'aube n'était pas levée et l'obscurité était totale. Quand Juan Diego ne dormait pas, il s'efforçait d'identifier les respirations autour de lui. S'il n'entendait pas Estrella ronfler, il se disait qu'elle était morte ou qu'elle était allée dormir ailleurs. C'était Allemagne qui avait le sommeil le plus profond et le souffle le plus régulier. Sa vie diurne de policière devait beaucoup la fatiguer. Babi était particulièrement agité. Ses petites pattes moulinaient comme s'il courait ou creusait la terre. Il aboyait à l'approche d'une proie imaginaire. Au grand dam de Lupe, Perro Mestizo était toujours cantonné au rôle du mauvais garçon. À en juger par sa propension aux flatulences, il était en effet la brebis galeuse de la tante, sauf quand l'homme perroquet lui faisait concurrence. Quant à Pastora, elle était comme Juan Diego, anxieuse et insomniaque. Quand elle était éveillée, elle haletait et faisait les 100 pas. Dans son sommeil, elle gémissait comme si le bonheur était pour elle aussi aléatoire qu'une bonne nuit de repos. « Couchez, Pastora !» lui intima Juan Diego le plus bas possible, car il ne voulait pas réveiller les autres chiens. Ce matin-là, il avait facilement identifié leur respiration. Il avait toujours du mal à distinguer celle de Lupe. Elle dormait si paisiblement qu'elle semblait à peine respirer. Il tendait l'oreille quand sa main effleura quelque chose sous son oreiller. Il dut tâtonner pour trouver la lampe de poche avant de découvrir de quoi il s'agissait. Le couvercle égaré de la sacro-sainte boîte, qui avait contenu les cendres, était tout à fait ordinaire, hormis son odeur. Les cendres contenaient davantage de produits chimiques que de restes d'Esperanza, du brave Gringo et de Blancsal. Et si l'ancien nez de la Vierge Marie avait un pouvoir magique, il n'avait pas d'effluve spécifique. Ça sentait plus le bassoulet d'eau sur le couvercle que quoi que ce soit de céleste. Et pourtant, Lupe l'avait conservé. Et elle l'avait glissé sous l'oreiller de Juan Diego. Sous son oreiller, il trouva aussi, rassemblé par un cordon, les clés des ouvertures par lesquelles on passait la nourriture aux fauves. Il y avait deux clés, une pour la cage de Hombre et une pour celle des lionnes. La femme du chef d'orchestre adorait tresser des cordons. Elle en avait fait un pour le sifflet de son mari quand il dirigeait l'orchestre du cirque, et un autre pour Lupe. Les fils étaient rouges foncés et blancs. Lupe l'attachait autour de son cou quand elle allait donner leur repas aux lions. « Lupe ?» chuchota Juan Diego encore plus doucement que lorsqu'il avait intimé à Pastora de se coucher. Personne ne l'entendit. Pas même un des chiens. « Lupe !» répéta-t-il, à voix haute cette fois. Il dirigea le faisceau de la lampe vers son lit de camp. Personne. « Je suis là où je suis toujours, » disait-elle d'ordinaire. « Pas cette fois. » Ce matin-là, au moment où l'aube pointait à l'horizon, Juan Diego trouva Lupe dans la cage de Hombre. Même quand on avait retiré le plateau, le sas au bas de la cage n'était pas assez grand pour permettre au lion d'y glisser la tête. « Pas de danger », avait déclaré Edward Bancho à Juan Diego quand il était venu la voir nourrir les lions et s'assurer de la taille de l'ouverture. La nuit de leur arrivée à Mexico, Lupe avait dit à son frère « Moi, je peux passer par le sas, je peux très bien me glisser à travers l'ouverture. Si je comprends bien, tu as déjà essayé ? Pourquoi j'aurais essayé ? Je sais pas, je te le demande. » Lupe n'avait pas répondu ni cette nuit-là, ni depuis. Juan Diego savait qu'elle ne se trompait jamais sur le passé, mais quand il s'agissait de l'avenir, ça dépendait. Les gens qui lisent dans les pensées ne sont pas devins pour autant, et Lupe se figurait sans doute avoir eu la vision de son avenir. Était-ce plutôt son propre avenir qu'elle croyait avoir vu ou celui de Juan Diego qu'elle tentait de changer? S'imaginait-elle avoir eu la vision de ce que serait leur destin s'ils restaient au cirque, si les choses demeuraient inchangées à la Malaville? Lupe avait toujours été isolée, comme si le fait d'être une adolescente de 13 ans n'était pas en soi un facteur d'exclusion. Personne ne savait à quoi elle croyait, et cela devait être un fardeau écrasant à son âge. Ce qu'elle savait, elle, c'est que ses seins n'allaient pas grossir, et qu'elle n'aurait jamais ses règles. Plus généralement, Lupe avait eu la vision de lendemain qui lui faisait peur, et elle avait voulu saisir l'occasion de les changer de façon dramatique. Sa décision modifierait l'avenir de son frère bien au-delà de ce qu'elle avait anticipé. Juan Diego allait vivre le reste de sa vie dans le monde de l'imaginaire, et ce qui était arrivé à Lupe et à Dolores serait le début de la fin de la Malaville. À Oaxaca, bien après que le jour du nez eut fait long feu, beaucoup parlaient encore de la terrible dissolution, de la fin retentissante du cirque de la merveille. Bien sûr, le geste de Lupe y fut pour quelque chose, mais qu'importe. Son geste était terrible. Frère Pepe, qui connaissait bien et aimait les orphelins, dirait plus tard que seule une gamine de 13 ans extrêmement perturbée pouvait avoir imaginé une telle abomination. Oui, mais les adultes ne sont-ils pas désarmés face à ce qu'imaginent les enfants de 13 ans? Lupe devait avoir déverrouillé la veille le sas d'alimentation de la cage, ce qui lui avait permis de laisser les clés attachées à leur cordon sous l'oreiller de Juan Diego. Peut-être Hombre était-il nerveux de voir Lupe venir lui donner à manger avant le jour, contrairement à ses habitudes. Circonstance aggravante, après avoir retiré le sas, elle n'avait pas mis sa ration sur le plateau. Sur la suite, on se perd en conjectures. Ignacio présumait que Lupe avait apporté la viande à Hombre en se glissant elle-même à l'intérieur de la cage. Juan Diego conjecturait plutôt qu'elle avait fait semblant de manger le repas du lion, ou qu'elle avait fait mine de le lui retirer. Comme elle l'avait expliqué à Seigneur Eduardo, les lions sont omnibulés par la viande au-delà de ce qu'on se figure.